enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Mais vous savez, la Bible nous enseigne que ce qu'on dit avec la bouche et ce qu'on croit du cœur s'accomplit. C'est pourquoi on aime faire cette déclaration. Donc on va prendre nos Bibles, on va dire, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je serai pour toujours et à jamais changé, transformé de gloire en gloire en l'image de Jésus. Amen, amen. Donc aujourd'hui, on continue notre série sur Dieu, qui es-tu? Et comme je vous ai déjà expliqué, hein, ça a été même inspiré un peu par une fois, j'ai écouté un chant, j'ai entendu le chant à la radio de Boom Desjardins qui disait Dieu, où es-tu? Et je me suis rendu compte du fait que combien de personnes ici dans cette belle province sont à la recherche. Ils sont angoissés dans leur cœur même. Ils ont besoin de réponses et ils cherchent des réponses. Et des fois, ils savent pas pourquoi les réponses ne se manifestent pas dans le temps qu'ils ont voulu, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on a découvert à travers les années? C'est déjà notre 10e semaine. Donc, je vous invite à aller sur notre site web www.lavie.comblée.org et vous pouvez écouter tous ces messages précédents, c'est gratuit. Mais aujourd'hui, on veut continuer parce que qu'est-ce qu'on a vu? C'est que des personnes, souvent, ils croient en Dieu. Ils sont convaincus que Dieu existe, mais ils ne savent pas où il est ou qui il est. Ils sont dans la confusion. Et notre but dans cette série, c'était de répondre aux questions primordiales et vraiment de trouver le cœur de Dieu, la nature de Dieu, sa personnalité, qui il est pour vrai. Il y a un seul vrai Dieu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a découvert? C'est qu'il est bon, il est tout-puissant, il voit, il pourvoit, il guérit, il est un berger. On a vu toutes sortes de belles choses à propos de lui. Et aujourd'hui, étant donné que c'est le fait des pères, nous allons parler d'un autre aspect du cœur de Dieu, c'est que Dieu est avant tout un père. Un bon père, un papa. Et on sait que dans notre société, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu le privilège d'avoir un père, ou qui ont grandi, ou qui grandissent dans une famille monoparentale. Moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale. Mon père est parti quand j'étais très jeune, mais c'est ma mère et mes grands-parents qui m'ont vraiment pris soin de moi. Et j'étais quand même très béni. Mais il y a quelque chose qu'on sait, c'est que si on n'a pas une bonne perception de c'est quoi un père, c'est quoi un papa, on peut avoir une mauvaise conception de qui Dieu est. Parce que quand on entend que Dieu est un père, c'est difficile parce qu'il y a certaines personnes ici qui n'ont pas eu de père ou qui ont eu un père qui n'était pas gentil, etc. Il y a d'autres qui ont eu une très bonne relation. Pour eux, ça va bien. Et on parle de papa, c'est positif. Mais aujourd'hui, on veut vraiment regarder le cœur de Dieu. Dieu est un père, il est un bon père. Tout le monde dit, il est un bon père. Amen. Donc, on sait que notre texte clé pour cette série, c'est Jean 17:3, qui dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. Et puis, on sait que si on va vraiment connaître la vérité, il faut connaître Dieu. Et notre message aujourd'hui, c'est revenir au cœur du Père. Et pour revenir au cœur du Père, il faut comprendre que Dieu est un Père et qu'il est un bon Père. Amen. Et en fait, il y a un verset en Malachie 4:6 qui dit, « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Je pense que Dieu veut, premièrement, nous ramener au cœur du Papa au ciel. Mais même il y a une œuvre à faire ici sur la terre avec les pères aussi. Moi, en tant que père, je veux avoir quelque chose ranimé dans mon cœur. Je veux avoir une meilleure relation avec mes enfants. Je veux aider les autres hommes dans cette salle, les jeunes hommes, les jeunes garçons qui vont être pères dans le futur. Je veux les aider à saisir l'importance d'être un papa un jour, dans le bon moment, dans la bonne façon, et comment être un exemple de Jésus dans le foyer. Amen. Mais être papa, c'est pas toujours facile. Vous êtes d'accord? Mais c'est quand même un job qui est important. Mais ça me fait penser à un père qui avait 5 enfants. C'est pas moi. Il y avait un père qui avait 5 enfants. Il arrive à la maison avec un nouveau jouet, OK? Il appelle tous ses enfants. Il leur demande qui entre eux devrait recevoir le cadeau. Imaginez, hein? Il arrive en beau jouet. C'est super. Tous les enfants sont contents de voir le jouet, mais puis il pose la question, c'est qui chez nous qui est le plus obéissant? Qui va toujours répondre, oui madame, et faire tout ce que maman lui demande. Et après un couple de secondes de silence, les 5 enfants ont dit en unison, OK papa, tu peux jouer avec ça. C'est comme la jeune fille qui a demandé à son père, « Papa, c'est toi le chef de famille, n'est-ce pas? » Et le papa, en souriant, dit, « Bien sûr que oui, c'est moi. » Et puis la fille a continué, « T'es le chef parce que c'est maman qui t'a mis en charge, oui? » Ah, je trouvais ça drôle, c'est juste pour... Mais le rôle d'un père, c'est important. Mais qu'est-ce qu'on sait, c'est que souvent on voit les relations père et enfant qui sont rupturées, qui sont brisées. Et ça cause tellement de douleur et de chagrin et d'angoisse dans le cœur des hommes et des femmes ici sur la terre. Il y avait une histoire d'un père et un fils en Espagne qui ont eu une rupture dans leur relation. Si vous avez entendu parler de cela. Et le fils a fait une fugue. Et le père est parti le trouver. Donc, il cherchait son fils. Il cherchait pendant les mois sans le trouver. Mais, en étant désespéré, finalement, il a pris une décision de faire une annonce dans le journal à Madrid, en Espagne. Et dans le journal, l'annonce disait ceci. Il disait tout simplement, « Cher Paco, son fils s'appelait Paco. Cher Paco, rencontre-moi devant le bureau du journal à midi samedi. » Puis, tout est pardonné. Je t'aime. Signé ton père. Samedi, vous savez qu'est-ce qui se passe? Samedi arrive et 800 hommes qui s'appellent Paco se présentent devant le bureau du journal en cherchant le pardon et l'amour de leur père. Donc là, on ne sait pas si c'est une vraie histoire ou non, mais ce que nous savons, c'est que ça pourrait être vrai. Combien des personnes ont eu une rupture dans leur relation avec leur père terrestre? Mais souvent, qu'est-ce qui est encore pire, c'est qu'ils ont eu une rupture entre eux et le Père Céleste. Et nous avons une histoire dans la parole de Dieu qu'on va tout simplement lire cela aujourd'hui et on va regarder cela. On parle de revenir au cœur du Père. Et tout le monde connaît l'histoire du fils prodigue, n'est-ce pas? Et puis, en Luc chapitre 15, verset 11, on va lire cela. C'est dans vos notes et c'est aussi sur l'écran si vous voulez suivre. Mais il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et le père lui partagea le bien, son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Vous voyez la misère de ce garçon, n'est-ce pas? C'est pas drôle qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? C'est moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il s'est retrouvé. » Et commencèrent à se réjouir. Voyez-vous le cœur du Père là-dedans? Ça, c'est vraiment l'image de notre Père Céleste. C'est comme ça que notre Père Céleste agit. C'est comme ça qu'il va réagir quand nous faisons des bêtises. Ça, c'est le cœur du Papa. Et n'est-ce pas encourageant de savoir que notre Père est si bon, si miséricordieux et si compatissant? Moi, j'aime ça. Verset 25. Or, le fils aîné était dans le champ. Il était dans le champ de patates. Et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. On voit encore le cœur du père qui veut réconcilier, pas juste avec son fils qui était perdu, mais il veut aussi réconcilier son fils avec son frère. Ça, c'est le cœur du papa. N'est-ce pas? Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, hein? Je sais que vous, parents, vous faites jamais ça, hein? Hein, des fois, ton fils, est-ce que tu peux parler avec ton fils? Ta fille? Non. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton... Il n'a même pas dit quand mon frère est arrivé. Quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau grand. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Quelle belle histoire d'amour! Quelle belle image du cœur du Père Céleste! Mais aujourd'hui, juste pour les prochaines quelques minutes, je ne veux pas prendre longtemps aujourd'hui, mais quand même, je veux prendre assez de temps pour suivre un peu le trajet vers un cœur réconcilié. On voit quand même dans cette histoire un exemple. On voit des principes. On voit les choses que nous pouvons saisir et on peut appliquer à notre vie aujourd'hui qui peuvent nous aider. Si vous êtes ici ce matin et dans votre cœur, vous savez que votre relation avec le Père est soit pas existant ou rupturée ou stressée ou négligée ou je sais pas quelle autre est, mais si vous vous trouvez dans une situation qui n'est pas le meilleur, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La route vers le Père est grandement ouverte. Le chemin n'est pas difficile à trouver. Et le Père, il attend. Avec les bras grands du verre. Donc, si on va suivre le trajet vers un peu réconcilié, on veut juste examiner un peu et penser un peu à ce qu'on vient de lire. Premièrement, sachez pourquoi le cœur peut s'égarer. C'est important parce que le cœur de l'homme a une tendance à s'éloigner de Dieu. Laissé à lui-même, il s'éloigne. Et on voit cela avec ce fils, le fils cadet. On voit qu'il y avait des problèmes dans le fond. Des problèmes qui ont ouvert la porte à toute sa misère. Numéro un, on voit que c'est par l'égoïsme qu'il s'est laissé tromper. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Vois-tu, Il ne pensait pas à la famille, il ne pensait pas aux autres, il pensait à lui-même, n'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment la nature du péché. Adam et Ève, devant l'arbre, que Dieu a dit, « Tu peux avoir tout ce que vous voulez dans ce jardin. Vous pouvez manger à votre faim. Vous pouvez être rassasié de tous les fruits, sauf qu'il y a juste une seule chose que je demande de ne pas faire. » Et c'était là, devant cette tentation, la tentation s'était centrée sur quoi? Sur eux. Hein? C'était beau à voir, agréable à la vue, où ils avaient le goût d'avoir ça dans la bouche et de toucher ça. Ils avaient le désir d'être semblables à Dieu, dans le fond. Ils pensaient à eux-mêmes. C'est l'égoïsme qui est trompeur. Mais quand on pense à Dieu et quand on pense aux autres, ça nous reste, ça nous garde sur le bon chemin, dans le bon sentier, n'est-ce pas? Deuxièmement, il était impulsif et ne voulait pas patienter. Laisse-moi vous dire une chose, l'amour fait attendre. L'amour n'est pas impulsif, l'amour est réfléchi. Dieu est réfléchi, Dieu pense avant d'agir, savez-vous quoi? Il avait un plan avant la fondation du monde pour nous sauver. Et savez-vous quoi? Que nous aussi, nous avons besoin de comprendre le problème avec notre société. Et on voit ça partout. Nous sommes dans une société de micro-ondes et services au volant. Et Internet à haute vitesse. Parce que si on veut télécharger un document et ça prend 60 secondes, c'est pénible. Non, c'est vrai. On pense, ah, c'est lent, j'ai besoin de changer d'ordi, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on aurait fait il y a 301 quand les gens n'avaient pas de téléphone, pas d'email, pas de fax? Je sais pas, est-ce qu'on aurait pu survivre? Numéro 3, il était rebelle et indiscipliné. On voit cela parce que il n'a pas juste dit, bon, OK, Père, donne-moi qu'est-ce qui me revient tout de suite. Je ne veux pas, même pas attendre que tu meurs. Je le veux maintenant. Mais aussi, on voit qu'il s'est éloigné. Qu'est-ce qu'il a dit dans le verset? On est toujours en verset 11. Si vous voulez regarder dans vos notes, ça ne serait pas sur l'écran tout de suite, mais regardez encore dans vos notes. Il dit, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien peu de jours après. Donc, on voit l'intuitivité là. Il part tout de suite. Le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pourquoi? Pour un pays éloigné. Donc, pour moi, ça montre vraiment un état de rébellion. En plus, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Donc, on voit qu'il a tout dissipé, il a tout dépensé. Il a tout ramassé. Il est parti peu de jours après. Il va dans un pays loin, loin, loin. Qu'est-ce que ça représente? N'oubliez pas que c'est un jeune homme juif. Donc, il n'est pas juste en train de quitter sa famille nucléaire, si vous voulez. Il est en train de quitter sa société. Il est en train de quitter son culture. Il est en train de quitter pas juste la présence de son père, mais il est aussi en train de quitter les enseignements de son père. N'est-ce pas? Il veut s'éloigner de tous ceux qui représentent la vérité pour lui. Et ça, c'est quelque chose de dangereux. Et on a tous une tendance à vouloir en faire ça. Qu'est-ce que Adam et Ève ont fait quand ils ont péché? C'est quoi la première chose qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Ils se sont éloignés de Dieu. Et ça, c'est exactement ce que nous ne voulons pas faire. Vous êtes d'accord? Puis, numéro 4, c'est ses convictions et ses valeurs qu'il a méprisées. Ses convictions et ses valeurs qu'il a méprisées. Moi, je sais c'est quoi. Vous savez c'est quoi. On a tous des moments dans la vie où on est tenté à renier les valeurs, les principes qui nous sont chers. Moi, j'ai passé par les moments comme ça, vous avez passé par les moments comme ça, et c'est exactement ce que ce fils ici est en train de faire. Et c'est pourquoi Proverbes 3, 1 et 2, et si on peut regarder cela, c'est ici. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car quoi? Ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta... Tu sais, le mot paix, c'est le mot shalom. Rien de brisé et rien qui manque. Si tu veux que rien soit brisé dans ta vie, si tu veux que rien manque, Restez avec les convictions, les valeurs. Ne sois pas égoïste, ne sois pas impulsif, ne sois pas rebelle ni indiscipliné dans votre vie. Et vous allez rester proche du cœur du Père. Amen. Puis, deuxième point qu'on veut faire aujourd'hui, pensez à toute la misère qu'on peut récolter si on décide de s'éloigner de Dieu ou si on décide de s'éloigner de ce que nous savons est vrai. Puis, on voit cela dans ce passage. Numéro un, il a commencé à tout manquer. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Savez-vous quoi? Quand on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de la source de notre provision. C'est pas votre emploi, c'est pas le gouvernement qui est votre source, c'est pas maman, c'est pas papa, c'est Dieu qui est la source de notre provision, n'est-ce pas? Et on a besoin de rester proche à lui. Il a commencé à tout manquer. Deuxième chose, il a perdu sa dignité. N'oubliez pas, c'était quoi son emploi qu'il a eu après avoir quitté son père? Il était obligé de faire quoi? Garder les cochons. N'oubliez pas, ils viennent de quelle nationalité? C'était un juif. C'était un garçon qui a appris pendant des années que pour un juif d'être en contact avec les cochons, c'est pas acceptable. Donc là, il n'est pas juste cassé. Il est sale et il est humilié en train de travailler et manger avec les pourceaux. C'est pas drôle son affaire. C'est de la misère pure et simple. Regarde bien. Il a perdu sa dignité numéro 3. Il était tout seul et abandonné aussi. On sait c'est quoi, hein? Il aurait bien voulu se rassasier des carottes rouges que manger des pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Moi, j'imagine que quand il est arrivé dans le quartier, avec les poches pleines d'argent de son héritage, quand il y avait pas mal de fric sur lui, il avait sûrement pas mal d'amis aussi. Quand c'était le moment de faire les choses, de vivre dans la débauche et oh, je vais vous payer la traite, et da-da-da-da. Là, il avait sûrement pas mal d'amis. Mais là, il se trouve cassé dans la misère et plus d'amis. Plus d'argent, plus d'amis, isolé, abandonné. Et moi, je suis convaincu que si on ferait un sondage ici aujourd'hui, il y a plein de gens qui pourraient donner un témoignage semblable à ça. Qui pourraient dire, ouais, je sais c'est quoi. Pensez avoir des amis, mais dans le fond, moi, j'avais un groupe d'amis. Pendant une courte période de ma vie, j'ai fait des choses de pas correctes que je regrette. Je commençais à faire des choses que j'aurais pas dû faire. Et j'avais un groupe d'amis qui, on se tenait ensemble. Mais quand j'ai pris une décision de marcher avec le Seigneur, je sais pas pourquoi, il ne voulait plus être avec moi. Parce que c'est moi qui conduisais pour faire les bêtises. C'est moi qui avais le char. C'est moi qui avais ceci et cela. Mais là, quand j'étais plus intéressé à faire les bêtises, ils n'étaient plus intéressés avec moi. Mais une bonne chose, Dieu a remplacé toutes ces fausses amies avec des vraies. Laisse-moi vous dire, les enfants qui sont ici ce matin, faites pas des choses juste parce que vous pensez que les autres enfants à l'école vont trouver ça cool. Faites pas les choses parce que les autres vont dire, ah, waouh, oui, il est vraiment hot, regarde qu'est-ce qu'il fait. Non, fais pas ça parce que ces amis-là vont pas durer. Fais qu'est-ce qui est bon, fais qu'est-ce qui est correct, fais qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez, et là, vous allez avoir des bons amis pour vrai. Bon. Il a commencé à tout manquer. Il a perdu sa dignité. Il était tout seul et abandonné, et en réalité, c'était vers la mort qui précipitait. Il a dit, même plus tard, que moi, je meurs de faim. Il y a un verset en Proverbe 14, 12 qui dit, « Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. » Ça ne vaut pas la peine de s'éloigner du papa. Amen? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce que nous avons besoin de faire aussi. Troisième point principal, prenez une décision d'être vraiment changé. Prenez une décision d'être vraiment changé. J'aime ça, verset 17 qui dit, étant rentré en lui-même, en revenant à ses bons sens, étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? » Donc, première chose qu'il a fait, numéro un, il s'est rappelé de sa bonté, la bonté de son père. Il a dit, « Ça n'a pas de bon sens! Qu'est-ce que je fais? Je suis sale, ça pue, je suis avec les cochons, j'ai plus d'amis, j'ai plus d'argent. Ah! » Et puis, il pense que autrefois j'étais un fils. Et de toute évidence, son père était assez à l'aise financièrement. Vous êtes d'accord? C'était pas un pauvre, c'était quelqu'un qui avait des mercenaires, des serviteurs. Pas juste un serviteur, il avait les serviteurs. Il avait assez d'héritage pour le diviser entre ses deux fils. Et son fils avait de quoi vivre pour quand même, pour de quoi gaspiller, n'est-ce pas? Mais regarde bien qu'est-ce qui se passe. Il se rappelle combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et ça me montre une autre chose concernant le cœur du père. Le cœur du père est généreux envers tout le monde. Pas juste envers les fils. Les serviteurs avaient du pain en abondance. Il donnait à ses serviteurs beaucoup. Donc il a dit, c'est fou qu'est-ce que j'ai fait. J'ai gaspillé mon héritage. Et là, je vis avec les cochons, et même les serviteurs chez mon père, ils vivent dans l'aise. À l'aise, n'est-ce pas? Puis, regardons bien. Numéro 2, il a résolu d'y retourner. Il a pris une décision. OK, verset 17. En rentrant lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. » Ça, c'est la repentance. Changer de direction. Il a dit, fini, je suis tanné. On a eu notre ami Mario qui a dit, toute ma vie, j'ai désobéi. Mais à partir d'aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, on va croire que c'est le cas. Il va continuer à rester sur le bon chemin et marcher dans l'obéissance. On va prier pour lui qu'il le fasse. Amen. On va prier pour nous pour que nous le fassions, hein, tous ensemble. Regarde bien. Il y a quelque chose de bien intéressant. Il a résolu d'y retourner. Il a avoué son péché. Il n'a pas essayé de dire, « Ah, ben, père... » Il n'a pas donné des excuses, même, hein, tu sais. « Tu étais trop dur avec moi, ou quelque chose. C'est pourquoi je suis parti. J'avais juste besoin de découvrir d'autres choses. Donc, c'est pourquoi j'ai quitté la maison. » Non, il a dit, « Non, j'ai péché, je vais avouer mon péché. » Aujourd'hui, hein, les personnes sont bons. Hein. Je pense que des fois, pour être parent, il faut être avocat presque, des fois. Hein. C'est comme le père qui il arrive à la maison et la boîte à mal juste à côté de la cour est démolie. Et puis, c'est vraiment démoli. Et puis, il voit dans le garage l'auto et le côté gauche de l'auto est toute maganée. Puis, il y a la même couleur de peinture de la boîte à lettres sur l'auto. Et puis, il arrive, il avait un couple d'ados dans la maison. « Bon, je veux savoir, c'est qui a frappé la boîte à lettres? C'est qui a frappé la... » Personne parle. Personne parle. Et finalement, il regarde un de ses fils. « Est-ce que tu as frappé la boîte à lettres? » « Non, je n'ai pas frappé la boîte à lettres. » « Voyons, quelqu'un ici a frappé la boîte aux lettres. Qui a fait ça? » Personne ne répond. Et finalement, après une longue discours, le gars dit, « Mais tu sais, c'est pas moi qui a frappé la boîte aux lettres, c'était l'auto qui l'a frappé. Mais c'est moi qui conduisais. » Donc, tu vois, ça, c'est pas comment on doit revenir à Dieu. Quand on revient à Dieu, c'est pas avec des excuses ou en disant, « Ben, tu sais, tu peux pas me blâmer, dans le fond. » Non. Dieu a dit qu'il en soit ainsi. Amen. Donc, on a besoin d'avouer nos péchés. Et puis, finalement, il voulait servir le Père avec humilité. Qu'est-ce qu'il a dit? « Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son Père. Donc, il était prêt à être juste un serviteur. « Seigneur, je ne mérite pas que tu me reprends, mais je vais me lancer sur ta grâce et ta miséricorde. » Romains 2, 4 dit ceci. Ou bien méprises-tu la grande bonté de Dieu? Tout le monde dit la bonté de Dieu. Regarde quelqu'un et dit Dieu est bon. Regarde quelqu'un d'autre et dit le Père Céleste est tellement bon. Ou méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement? C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Quand on fait quelque chose qui n'est pas correct, quand on fait quelque chose qui n'est pas bon, c'est le fait que Dieu est bon qui doit nous amener à se repentir et changer de direction. Ça, c'était le cas pour moi. La bonté de Dieu. Et moi, je me compare beaucoup avec le fils prodigue parce que même si j'ai eu une courte période de rébellion et même si le Seigneur m'a épargné de beaucoup de bêtises que j'aurais aimé faire mais j'ai pas eu la chance de faire, gloire à Dieu, parce que ma mère priait. Moi, je me compare beaucoup avec lui. J'ai eu le même sentiment que lui à l'âge de 16 ans quand je suis revenu au Père parce que j'ai eu une rencontre avec le Dieu Tout-Puissant. J'ai eu une rencontre avec mon Père Céleste. Une nuit, en 1983, je pense. Et c'était quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai su? Et qu'est-ce que j'ai reçu? C'était la bonté de Dieu. Bon, quatrième point qu'on veut voir aujourd'hui, c'est qu'il faut recevoir l'amour du Père qui est parfait. Même si on a eu des pères ici sur la terre qui ne sont pas parfaits, nous avons quand même un Père parfait au ciel. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et qu'est-ce qu'on voit à propos de lui en verset 20 ici? Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Numéro un, c'est avec beaucoup de compassion qu'il aime s'exprimer. Dieu va toujours s'exprimer avec compassion. Numéro deux, c'est toujours sans condition qu'il décide de nous aimer aussi. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre la terre. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, il n'a pas donné beaucoup de chance même à son fils de continuer. Qu'est-ce qu'il a peut-être pratiqué pendant tout son cheminement sur le trajet pour rentrer à la maison. Peut-être il pensait à ça, « Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Comment est-ce que je vais lui expliquer ça? » Donc, mais il dit une chose. C'est toujours sans condition qu'il décide de nous aimer. Il est prompt à nous pardonner, numéro 3, et à nous restaurer. Et aujourd'hui, je veux vous expliquer qu'il y a une grande différence entre le pardon et la restauration. On peut être pardonné. Exemple, quelqu'un qui est dans les politiques, qui vole le gouvernement. Le gars peut être pardonné. Il n'a pas besoin d'aller en prison, mais il ne sera plus chef de l'État. Vous êtes d'accord? Il est pardonné, mais pas restauré. Tandis que quand Dieu nous pardonne, son désir, c'est aussi de nous restaurer. Il n'a pas dit seulement, « OK, mon fils t'est pardonné, c'est correct, va avec les serviteurs. » Non, c'est mon fils. Tu as toujours été mon fils, tu seras toujours mon fils. Tu as péché, tu t'es repenti pour vrai, et maintenant, laisse-moi te dire que tu es autant mon fils que jamais. Pas juste le pardon, mais aussi la restauration. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, il va restaurer sa dignité. Et le revêtez, mettez-lui un anneau au doigt. Savez-vous c'est quoi? À l'époque, les hommes, surtout les hommes riches, ils avaient des sceaux sur les bagues. Comme ça, une personne pourrait aller au marché et acheter des choses, et tout ce qu'il avait besoin de faire, c'était de prendre la sceau et payer avec ça. C'était un signe d'autorité. Qu'est-ce que le Père est en train de dire? C'est que j'ai restauré ta position comme fils. Tu as le droit d'utiliser mon nom. Tu as le droit de faire des affaires à mon nom. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux à mon nom parce que tu es mon fils pour toujours. Donc, pensez pas que quand vous vous repentez, quand vous revenez à Dieu, que vous êtes un citoyen de deuxième classe. Vous êtes aussi juste que Jésus grâce à lui. Amen. Amen, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Oh, merci Seigneur. Revêtez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Donc, numéro 3, il est prompt à nous pardonner, nous restaurer. Numéro 4, avec un cœur généreux, il veut nous combler. Donc, tuez le veau gras. On va célébrer. On va pas juste donner un peu, on va vous donner beaucoup. Amen. Luc 12, 32, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Regarde quelqu'un et dit, Dieu veut vous donner le royaume. J'ai pas mérité le royaume. Si j'aurais eu, qu'est-ce que j'ai mérité? J'aimerais pas ça. Et vous? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents que Dieu est miséricordieux? Puis finalement, dernier point ce matin, gardez-vous de devenir un frère perturbé. Savez-vous quoi qui est triste? Quand on se répand, quand on revient au cœur du Père, quand on suit le trajet vers un cœur réconcilié, souvent on a une tendance à oublier vite. On vient à Dieu, on est restauré, pardonné, heureux, comblé. Mais qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un d'autre décide de se repentir? Est-ce qu'on est aussi heureux pour eux qu'on était pour nous? On devrait être. Malheureusement, il y a des fois quelque chose qui se passe, un esprit de jalousie que nous avons vu avec le grand frère, le frère aîné. Qu'est-ce qu'on voit avec lui? Oh, le fils aîné était dans les champs, comme on a dit, il était dans les champs. Mais on voit quelque chose. Il était dans le champ quand son frère est revenu. Il travaillait fort. Est-ce que travailler, c'est une bonne chose? Oui. Mais qu'est-ce qu'on a? On a une impression dans ce passage qu'il travaillait peut-être pas toujours pour les bonnes raisons. Numéro un, on voit qu'il travaillait peut-être pour se justifier. Pourquoi est-ce qu'on sait? Parce que plus tard, quand il parle avec son frère, il dit, comment ça? Moi, je travaille pour toi toutes ces années. Tu n'as jamais donné quoi que ce soit pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et regarde celui qui a gaspillé ton argent avec les prostituées. Est-ce qu'il travaillait vraiment pour les bonnes raisons? Ou est-ce qu'il travaillait pour être vu par son père pour dire, regarde-moi, je suis quelqu'un? Je ne sais pas. Mais je vous propose que peut-être il avait un problème. Il voulait se justifier lui-même. La justice de soi ne marche pas. Notre justice, c'est comme du linge sale, la Bible dit. C'est sa justice, c'est le seul qui compte. Numéro 2, la bénédiction de son frère l'a vraiment fâché. Et ça arrive des fois aujourd'hui même. Quelqu'un est béni par Dieu, ou quelqu'un qui a vécu dans le débauche pendant des années, ils viennent au Seigneur, et le Seigneur commence à le bénir. Et des fois, des personnes qui ont été sages toute leur vie, ils commencent à dire, « Comment ça, Seigneur? Moi, j'ai jamais... volé, j'ai jamais touché à la drogue, j'ai jamais fait ça, j'ai resté pur, j'ai fait ceci. Comment ça que lui, il est tellement béni, et moi, j'étais tellement sage, et j'ai pas toutes ces bénédictions? » Attention. Attention. Faisons vraiment attention. Regarde quelqu'un a dit, attention. La bénédiction de son frère l'a vraiment fâché. Numéro 3, il jugeait son frère et l'accusait. Regarde bien. OK? Le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint approchant de la maison, il a entendu la musique et les danses. Qu'est-ce que c'est ça? Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut plus pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Il était vite à dire, celui qui a mangé avec des... gaspillé des choses avec des prostituées. Il était en train d'accuser et juger son frère. Le péché, c'est le péché. C'est jamais acceptable. Mais laisse-moi vous dire, c'est pas à nous de juger et de condamner les autres. Des fois, on est vite à dire, mais un péché, c'est pire que l'autre. Mais dans le livre de Dieu, le péché, c'est le péché, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui n'ont peut-être jamais eu un problème avec une chose, mais ils ont eu plein de problèmes dans le cœur qui sont peut-être moins visibles, mais aussi sérieux. Vous êtes d'accord? Donc, jugez pas, accusez pas. Numéro 4, inutilement, il s'est toujours privé. Avez-vous remarqué que dans le passage, au début, le fils cadet est arrivé en disant, « Père, donne-moi qu'est-ce qui me revient. » Et qu'est-ce que le père a fait? Il a divisé son héritage. Il l'a donné à qui?
Aux deux.
Le fils aîné avait son héritage aussi. Et en plus, le père a dit, « Tout ce que j'ai, c'est à toi. » Donc, il s'est privé inutilement. Et combien de nous, au lieu de mépriser les bénédictions des autres, pourquoi pas réclamer nos propres bénédictions? Pourquoi pas recevoir avec un cœur reconnaissant, « Merci, papa, que moi aussi. » Quand tu vois quelqu'un qui est béni, avec une nouvelle auto ou quelque chose, laisse-moi te dire, « J'ai vu des personnes être fâchées. »« Ah, oh, comment ça, il y a... » Ou un nouveau emploi, ou quelque chose, quelqu'un est béni avec augmentation de salaire. Aussi longtemps que vous êtes jaloux, laisse-moi vous assurer que vous n'allez pas avoir la bénédiction. Puis, numéro 5, il a refusé de se réjouir, de célébrer. Il y a quelque chose, les fils perturbés n'aiment pas célébrer. Ils sont des fois sérieux, mais trop sérieux. Savez-vous quoi? La vie chrétienne est sérieuse. Mais on doit être sérieusement heureux aussi. On doit sérieusement avoir du fun aussi. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Avez-vous vu le cœur du Père aujourd'hui? Jean-Charles, si tu peux venir. Nous allons juste terminer dans la prière aujourd'hui. Vous savez qu'à chaque dimanche, j'aime donner l'occasion aux gens de revenir au Père. Et ce matin, vous êtes ici et dans votre cœur, vous savez sans aucun doute que vous avez besoin de revenir au Père. Je vais vous donner l'occasion de le faire, là, juste dans une minute. Donc, j'aimerais que tout le monde garde les yeux ouverts et que si c'est possible, on va terminer juste en quelques minutes. Je sais que c'est la fête des pères et on veut laisser tout le monde partir pour de bonheur quand même. Mais c'est tellement important. Pouvez-vous penser à une chose qui est plus importante que d'être en règle avec le Père Céleste? Donc, si c'est possible, juste restons tranquilles. Bougeons pas trop, juste pour les prochaines quelques minutes. Et si vous savez sans aucun doute que vous êtes déjà vraiment réconcilié avec Dieu et votre cœur est en communion avec le Père. Si c'est le cas, déjà, je vous invite maintenant même à prier pour les hommes et les femmes, les enfants qui peuvent être ici dans la salle aujourd'hui, qui n'ont pas cette paix et qui n'ont pas cette assurance d'être en règle avec Dieu. Parce que je vais leur donner l'occasion de revenir au Père maintenant. Laisse-moi juste vous dire une chose. Pensez-vous, la vie sur la terre est courte. On ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver, même cet après-midi. Je vous pose la question, si, en quittant la salle aujourd'hui, votre cœur arrête de battre, juste comme ça, vous êtes mort. Avez-vous l'assurance que vous êtes prêt à rencontrer le Père Céleste? Si vous dites, moi, je crois que oui, je vous pose la question, mais pourquoi est-ce que vous avez cette assurance? Pourquoi est-ce que vous êtes sûr que vous allez passer l'éternité au ciel? Oh, mais si tu dis, mais je crois en Dieu. La Bible dit que même le diable croit que Dieu existe et il n'est pas sauvé. Si tu dis, mais je prie et je vais à l'église. Comme je dis souvent, rester à l'église, même si tu viens 7 jours sur 7, ça ne peut pas te sauver. Je peux rester chez McDo pour une semaine et je ne vais pas devenir un hamburger, n'est-ce pas? Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait de croire que Dieu existe. Ce n'est pas le fait de prier ou de lire la Bible ou être gentil. La Bible dit que par les œuvres de la chair, personne ne peut être justifié. Voici la réalité. Juste un couple de choses que je veux que vous sachiez, parce que je vous aime tellement, je veux vous donner l'occasion de le savoir. Première chose que je veux que vous sachiez, que c'est que sans Jésus, tu es coupable. Et c'est sur le PowerPoint ici. si on peut changer de diapo. Tu es coupable et sans défense devant Dieu. Regardons le verset qui est là. Si on peut voir le verset. Tous, sans distinction, ont péché, ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. La personne la plus religieuse au monde ne peut pas être sauvée sans Jésus. Regarde, il y a une image que je veux te montrer. Le péché nous a séparés de Dieu. On voit un Dieu qui est saint à 100%, mais on voit l'homme qui est infecté par le péché. Et c'est notre péché qui nous sépare de Dieu, qui nous garde séparés. Mais voici la bonne nouvelle, c'est seulement en Jésus, l'autre point, qu'on peut être sauvé. Regardons le verset ici, Romains 3, 23. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Comment on dit un don? Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu, c'est-à-dire pardonnés et restaurés. Par pure grâce, ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela fut possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Regardons la prochaine image ici. C'est Jésus qui a fait le pont. C'est seulement lui qui peut nous amener au Père. Et si on ne passe pas par Jésus, on ne peut pas être sauvé. Et encore, si on est ici et on croit que Dieu existe, c'est pas assez. Il faut traverser le pont. Et c'est pourquoi, prochain point, c'est qu'il faut recevoir Jésus. Jean 1, 12 dit ceci. Si on peut regarder le verset. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pas assez de croire que Jésus est mort pour vos péchés. Il faut personnellement recevoir. Si je dirais que Gaétan, j'ai acheté une Bible pour toi, j'ai mis ton nom là-dessus, j'aimerais t'offrir ça. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Tu as besoin de le prendre. Je peux étendre ma main la journée longue, mais s'il ne prend pas la Bible, il ne peut pas recevoir le cadeau. Et Jésus nous a offert un cadeau. Donc, prochaine image, je vous pose la question, où êtes-vous? Est-ce que vous êtes ici? Le côté de la mort, rébellion, péché et misère. Même si vous êtes gentil, même si vous êtes considéré par tous les autres, même si toutes les autres personnes dans la salle pensent que vous êtes déjà chrétien. Où est-ce que vous êtes ici? Côté de la mort, ou est-ce que vous avez pris le pont? Est-ce que vous avez reçu personnellement le Seigneur Jésus? Et est-ce que vous êtes passé de la mort à la vie? Si vous voulez passer de la mort à la vie, c'est pas compliqué. Numéro 1, il faut accepter que tu ne peux pas te sauver toi-même. Regardons Romains 3 encore. Car c'est par la grâce, Éphésiens 2, pardon, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne puisse glorifier. Première chose que le fils prodigue avait besoin de faire, c'est qu'il fallait revenir en lui-même en disant, bon, je suis dans le péché, il faut que je change de direction. Ça, c'est la deuxième chose. Tourne vers Dieu, numéro 2, et change la direction de ta vie. On appelle ça la repentance. Apocalypse 17, 30. Regardons. Dieu, sans tenir compte, pardon, acte 17, des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Tous les hommes en tout lieu ont besoin de se repentir. Et puis, finalement, numéro 3, confesse avec ta bouche que Jésus est ton Seigneur, en croyant de ton cœur qu'il est ressuscité des morts. Romains 19, regardons. Chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, je vous pose la question ce matin. Du quel pont, côté du pont est-ce que vous vous trouvez? Il y a beaucoup de gens qui ont fréquenté Jésus sans jamais s'engager à lui. Ils fréquentent une église, ils croient en lui, même ils vont prier, lire la Bible, mais ils n'ont jamais pris une décision de dire, maintenant, je vais confesser avec ma bouche que Jésus est mon sauveur, mon Seigneur. Un Seigneur, c'est un maître, un patron. Et la quatrième chose qu'on a besoin de faire, numéro 4 ici, c'est qu'il faut qu'on soit prêt à le professer devant les autres. Dernier verset que nous allons voir ce matin, c'est important. Matthieu 10, chapitre 10, verset 33, dit « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Et si quelqu'un me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père. » Est-ce qu'il y a des gens qui veulent confesser Jésus devant les hommes aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste vous donner l'occasion. Si vous êtes ici et vous êtes honnête avec vous-même, et honnête avec Dieu, et vous savez que vous n'êtes pas du bon côté du pont, mais aujourd'hui, vous voulez prendre une décision de traverser le pont en recevant Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, et vous n'avez pas honte de dire devant tout le monde que je veux servir Jésus, et j'accepte Jésus, je reviens au Père aujourd'hui. Je vais tout simplement taper ma main. Pense pas qu'est-ce que les autres vont penser, mais quand je tape ma main, c'est ton indication à lever la main et dire oui, je veux donner ma vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, je vous invite pas à devenir membre de l'Église, je vous invite à être né de nouveau, à devenir membre de la famille de Dieu. Amen. Combien de vous êtes contents de l'avoir déjà fait? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sûrs et certains que vous avez déjà traversé le pont? Donc aujourd'hui, vous voulez traverser le pont, vous voulez recevoir Jésus, vous voulez le confesser devant les autres, je vais taper ma main et juste lever la main vite, vite. 1, 2, 3. Qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Oui? Quelqu'un a indiqué quelque chose. Peut-être que tout le monde ici l'a déjà fait, mais sinon, n'hésitez pas. C'est pas moi. C'est Jésus. Jésus a dit quelque chose dans la parole que Dieu a choisi que par la folie de la prédication, les hommes pourraient être sauvés. Des fois, on dit, mais qu'est-ce que ça va changer? Ça peut changer votre éternité. Ça peut être la différence entre l'enfer et le ciel. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Juste lever la main, vite, vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non? C'est correct. C'est correct. C'est entre vous et Dieu. Hein? Vous savez dans votre cœur. Mais si il y a le moindre doute, on est là pour prier avec vous aujourd'hui. Amen. Comme on a vu, on avait 10 personnes qui ont pris une décision de se baptiser. 36 ou quelque chose personnes dernièrement ont donné leur vie au Seigneur. Et moi, je crois que de plus en plus, on va voir des âmes venir à Jésus. Parce que Jésus revient bientôt. Mon engagement, c'est de donner l'occasion à chaque semaine. Pas toujours de la même façon, peut-être, mais on a besoin d'annoncer la bonne nouvelle. Paul a dit, je vous supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Et moi, en tant que porte-parole pour Dieu, je dis, je vous supplie, sois réconcilié avec le Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Dernière chance. Sinon, on va prier. Toi, est-ce que tu l'as déjà fait? Amen. Amen, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin? Toi, tu veux reconsacrer ta vie au Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de revenir au Père ce matin? Oui, il y a quelqu'un d'autre. Alléluia. Peut-être si vous voulez revenir au Père, juste viens ici, on va prier avec vous. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est la première fois, venez avec eux. Le Seigneur il vous tend la main aujourd'hui. Il y a des personnes qui reviennent au Seigneur de tout leur cœur. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est merveilleux. C'est ça que j'ai fait quand j'avais 16 ans. Je suis revenu à lui. À 10 ans, j'ai donné ma vie à Jésus, mais à 16 ans, je suis revenu à lui. S'il y a quelqu'un d'autre ce matin qui a besoin de se rejoindre à ces personnes, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour eux? Ça prend du courage. Content que le Seigneur vous donne. John, toi aussi, tu veux redonner ta vie au Seigneur, reconsacrer ta vie. Est-ce que quelqu'un d'autre? On va prendre une minute de plus. Toi aussi, Jimmy. C'est bon. C'est bon. Quelqu'un d'autre qui veut donner sa vie à Jésus ou qui veut reconsacrer sa vie à Jésus, juste venez. Alléluia. On va prier avec eux. Est-ce qu'on peut se lever debout? On va remercier le Seigneur encore pour eux. Ça, c'est des moments précieux. Est-ce que je peux vous dire une chose? Moi, je m'en souviens quand j'étais jeune, avoir répondu à un appel comme ça pour reconsacrer ma vie. Et c'était un moment marquant dans ma vie aussi. Le Seigneur a fait quelque chose dans mon cœur. Et je crois que pour vous autres aussi, ça va être un moment important. On va prier. Ici, et on a quand même des préparés à l'hôtel qui peuvent prier avec vous aussi si vous avez des questions. Mais Père Céleste, au nom de Jésus, merci que ce matin, nous avons ces 5 personnes qui veulent revenir au cœur du Père. Et Seigneur, dans le fond, nous, tous, Seigneur, chacun de nous sans exception, nous voulons nous approcher davantage à toi. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'approcher plus à Dieu? Merci, Père. Merci au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour chaque homme, chaque femme ici, qu'on puisse marcher avec toi, qu'on puisse te glorifier dans nos paroles, nos pensées, nos actions, jusqu'au jour que tu reviens. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.